Voici les titres du journal.
La situation des affaires pendantes devant les tribunaux valaisans s'améliore. Leur nombre a enfin entamé sa décrue. On en parle dans ce journal en compagnie d'Yves Terrani. Il a épluché pour nous les rapports des tribunaux pour l'année 2020. Le tourisme valaisan a vécu un premier hiver complet sous Covid-19 plutôt difficile. Le défaut de clientèle étrangère n'a pas pu être compensé par l'afflux plus important qu'à l'habitude de touristes suisses. On décrypte tout cela dans ce journal. La municipalité de Long souhaite réaménager la zone sportive des Verchies. Le projet, chiffré à 3,5 millions de francs, sera mis à l'enquête dès samedi. En football, les aventures en Coupe de Suisse se sont terminées hier soir pour le FC Montais et le FC Vevey United. Si les Valaisans n'ont pas vraiment inquiété le FC Lugano, les Vaudois ont tenu la dragée haute au Servette FC.
Du soleil et encore du soleil, c'est votre programme météo pour aujourd'hui et pour demain, la météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Joël Espy. Bonjour Joël.
Bonjour. Une justice de qualité, c'est aussi une justice rendue dans des délais raisonnables. Cette formule figure en tête du résumé des rapports des tribunaux valaisans pour l'année 2020. Et on en parle avec vous, Yves Terrani. Bonjour.
Bonjour.
En rappelant en préambule que la justice valaisanne a été épinglée plus d'une fois pour ses lenteurs.
Oui, il faut rappeler ici qu'une hausse des affaires pendantes de l'ordre de 15% avait été enregistrée entre 2016 et 2018 au tribunal cantonal. Cette hausse avait été ramenée à 3% en 2019.
Et la tendance s'est enfin inversée l'an dernier.
Absolument. Le nombre d'affaires en suspens a commencé à diminuer. Ce n'est certes pas spectaculaire puisque cette décrue est de l'ordre de 2% seulement pour l'ensemble du tribunal. Mais c'est pourtant un peu mieux, 5% dans les affaires civiles ordinaires, domaine qui souffre du plus grand retard et ceci en dépit d'une augmentation des entrées. Dans le même temps, le nombre des affaires pénales ordinaires pendantes n'a pas progressé. S'agissant de celles-ci, il y a lieu de relever cependant que si la proportion des liquidations dans un délai supérieur à 12 mois est en léger recul, elle n'en demeure pas moins encore trop élevée. Ainsi, liquider les affaires sans dépasser la limite souhaitable d'une année doit rester l'objectif prioritaire du tribunal cantonal, peut-on noter dans le rapport de ce dernier. À noter au passage que les recours contre les décisions des APEA, comprenez les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, sont traités par les cours civils et pénales. Là aussi, des critiques en termes de lenteur s'étaient fait jour ces dernières années. C'est donc assez court qu'a été affecté le 12e juge cantonal que le Grand Conseil a élu lors de sa session de décembre dernier, juge qui a pris ses fonctions le 1er mars. Ajoutons côté chiffres qu'en 2020, le tribunal cantonal a enregistré l'entrée de 2036 nouvelles affaires. C'est un peu moins qu'un an auparavant, il n'en a liquidé 2064. 277 recours ont été formulés au prix du tribunal fédéral. Seuls 28 ont été admis ou partiellement admis par la Haute Cour fédérale.
Et on continue Yves en évoquant le tribunal des mineurs.
Où le nombre de dénonciations reçues a encore fortement augmenté en 2020. 117 affaires de plus en comparaison avec 2019. Une progression qui concerne le Valais central, relève le rapport de ce tribunal. A noter que la prestation personnelle est toujours la sanction prononcée le plus fréquemment. Viennent ensuite l'amende, la réprimande et la privation de liberté à hauteur de 7% seulement pour cette dernière punition.
Et du côté des tribunaux de district maintenant, Yves.
Eh bien, les résultats de ces tribunaux vont à rebours des statistiques antérieures. Au civil, le nombre de causes liquidées a pour la première fois dépassé celui des affaires nouvelles, mettant fin à l'accroissement continu depuis 2011 des dossiers reportés à l'année suivante. Au pénal, une hausse massive des mises en accusation a fait voler en revanche en éclat la stabilisation du nombre des affaires à traiter qui semblait enfin installée, relève le rapport de ces tribunaux de district. Rapport qui précise cependant que 2020 a été une année particulière pour la société et qu'il ne faut pas tirer des conclusions de ces résultats avant la fin de l'exercice 2021, exercice qui dira s'ils annonçaient ou non de nouvelles tendances.
Et il reste que ces tribunaux de district doivent être encore plus efficaces.
Oui, c'est ainsi que des pistes réalistes pour le leur permettre sont explorées actuellement. À plus long terme, les tribunaux de district attendent avec impatience, disent-ils, les résultats de l'analyse du pouvoir judiciaire du canton du Valais et les travaux de la constituante en espérant, je cite, qu'ils posent les bases d'une amélioration de leur organisation. Et on terminera ce tour d'horizon en évoquant le tribunal de mesure de contrainte et de l'application des peines et mesures. Simplement pour mentionner que le nombre de dossiers enregistrés par cette instance a augmenté de 6% par rapport à 2019, avec en outre un important souci, le manque de place pour l'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles, ce qui peut engager, on le rappelle, la responsabilité de l'État du Valais pour détention illicite, dès lors que sur ce point, il ne respecte pas les droits fondamentaux des condamnés. Enfin, autre problème épineux, celui du traitement des dossiers de levée des scellés. Ceci demande un investissement en temps énorme, vu la masse parfois colossale de documents à trier, avec pour corollaire des problèmes de surcharge de travail.
Merci beaucoup Yves Terrani pour ces explications. Vous avez épluché les rapports des tribunaux valaisans pour l'année 2020. Trois sociétés valaisannes d'électricité fusionnent. Le groupe CEIC Teledis annonce l'union de Bornet Électricité, Vouillot Électricité et Bridy F Électricité, toutes trois faisant partie déjà du groupe. Ces entreprises actives de longue date en Valais sont désormais rassemblées sous l'entité Cetelec.
Le Valais a tout juste pu sauver les meubles.
À l'expression des observateurs du tourisme valaisan à l'heure de dresser un bilan, s'agissant du premier hiver complet passé par la branche sous Covid-19, avec tout de même ce constat réjouissant, la para-hôtellerie a plutôt bien fonctionné. Nicolas Delettreau, chef de projet de l'Observatoire valaisan du tourisme.
La para-hôtellerie a fait de meilleures performances que l'hôtellerie. C'est assez net, on peut le juger grâce à un panel que nous exploitons. Mais je pense qu'on l'explique par deux raisons principales. La première, je pense que c'est en fait la rassurance que pouvait donner aux clients le fait de loger un hébergement en famille ou en petit groupe, selon les restrictions, et puis d'y rester quelque part et de maîtriser après ses repas et ses autres besoins. Le deuxième élément qui, d'après moi, explique le fait que la para-hôtellerie a mieux fonctionné que l'hôtellerie, c'est que les restaurants étant fermés, quelque part, ça réduit l'attractivité d'un logement en hôtel, même si bien sûr l'hôtel propose un restaurant, mais là, en n'ayant pas forcément le choix de pouvoir aller tel ou tel soir dans la destination, choisir d'autres restaurants, je pense que ça a freiné aussi les réservations en hôtellerie.
La para-hôtellerie serait-elle donc le fil sur lequel mettre particulièrement l'accent ces prochaines années en Valais? On retrouve Nicolas Delettreau.
L'offre est là, donc ça c'est déjà un avantage. L'offre est là, elle est diversifiée. Par contre, ce qui est encore assez peu diversifié à mes yeux, ce sont les modèles de commercialisation encore des nuitées para-hôtelières. Très souvent, bien que les choses tentent à changer, mais on reste encore souvent sur des locations classiques à la semaine, du samedi au samedi. Assez souvent, on peut le comprendre parce que la para-hôtellerie nécessite de la logistique assez lourde entre deux locations. Mais si on veut quelque part fidéliser, je dirais plutôt fidéliser qu'attirer une clientèle suisse, parce que ce sera peut-être le même client qui va revenir assez souvent, partant du principe qu'il est situé à quelques heures au maximum, voire même moins en voiture de sa destination, il faut qu'il puisse bénéficier de séjours courts et très diversifiés.
Il s'agit donc d'amener des produits différents pour varier les plaisirs de la clientèle, mais aussi de repenser les modèles d'affaires, comme nous le confirme maintenant Roland Chègue. Il est coordinateur des recherches de l'Institut Tourisme à la HESSO Valais.
En Valais, c'est clair, on a eu une clientèle traditionnelle de Suisse romande, de Suisse alémanique. On a une bonne base sur laquelle on peut travailler, mais je pense qu'on ne peut pas compenser totalement le manque de la clientèle étrangère. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir aussi à où trouver une nouvelle clientèle, peut-être des gens qui veulent travailler à la montagne, qui veulent peut-être vivre à la montagne. Je pense qu'il y a peut-être d'autres pistes à penser.
Et Roland Chègue d'évoquer en particulier comment explorer le domaine du télétravail à la montagne. C'était un dossier signé Yves Terrani. Le ministère public valaisan a décidé de ne pas entrer en matière au sujet de la fraude électorale dans le Haut-Valais. L'enquête a permis d'identifier l'auteur des faits dénoncés par la commune de Brie-Glis. Son comportement n'a toutefois pas été jugé constitutif d'une infraction pénale. La commune de Brie-Glis avait dénoncé au ministère public le 7 mars dernier de possibles fraudes électorales dans le cadre des élections au Grand Conseil. Le site de vente en ligne Coca ne peut pas continuer d'occuper du personnel durant la nuit et le dimanche. Le tribunal fédéral a rejeté le recours de l'entreprise vaudoise contre le refus, signifié en 2019 par le secrétariat d'État à l'économie. Selon le SECO, la surveillance de la publication des offres la nuit ou le dimanche n'était pas indispensable au fonctionnement de Coca.
La municipalité d'Olon souhaite réaménager la zone sportive des Verchies.
Le projet, devisé à 3,5 millions de francs, sera soumis à l'enquête publique depuis samedi. Une volonté pour les autorités boyardes d'améliorer cette zone située à côté du collège de Perrossal, tout en préservant la sécurité de tous. Explication de Nicolas Crocitorti, conseiller municipal d'Olon, avec Léa Journeau.
L'intérêt, ce sera d'offrir une surface de jeu supplémentaire pour notamment le club de foot de la commune qui compte aujourd'hui plus de 160 jeunes et une quarantaine d'actifs. Donc c'est 200 footballeurs qui doivent malheureusement se partager aujourd'hui un seul terrain. Avant que les travaux de réaménagement et d'agrandissement du collège de Perrossal commencent, il y avait un terrain mais qui était un véritable champ de patates, qui était aussi à disposition, qui était mal éclairé pour effectuer des entraînements. Mais aujourd'hui, le club a depuis des années maintenant besoin d'une nouvelle surface.
Concrètement, ce réaménagement consiste en quoi ?
Alors le réaménagement, il consiste à construire, comme je le disais, un terrain synthétique officiel pour offrir une surface de jeu supplémentaire au club. Mais aussi, on va profiter de faire des travaux d'entretien du terrain actuel et puis d'installer une tondeuse automatique qui permettra de diminuer les nuisances pour le voisinage. On va maintenir les surfaces de jeu du beach volley actuel et puis on créera une zone verte aussi, une zone de détente entre ces deux terrains pour les personnes et la population qui viendraient jouer ou supporter le club local.
Donc redonner un petit coup de neuf, un petit coup de boost à cette zone sportive.
Voilà, on en profitera aussi pour repenser le grillage alentour et l'accès à ce site, parce que alors c'est un site qui est très prisé, non seulement de la population, mais aussi des personnes alentour, et puis dans le but aussi de diminuer les nuisances sonores le soir, notamment pour le voisinage. On aimerait améliorer la sécurité et puis empêcher les gens d'y rester trop longtemps, en tout cas de s'y introduire trop tard, pour diminuer ces nuisances pour le voisinage.
Alors, pour le moment, c'est un projet qui est mis à l'enquête. Vous avez bon espoir que ça passe ou vous attendez à des oppositions ?
Il y a un travail qui a été réalisé avec le voisinage depuis 2019 maintenant. Un avant-projet leur a été présenté lors d'une soirée où ils ont été invités, où ils ont pu faire des remarques. Nous avons tenu compte de ces remarques dans le projet qui est aujourd'hui soumis à l'enquête. Nous avons réduit le nombre d'installations. Il était prévu au départ notamment un skatepark et suite aux remarques et aux doléances du voisinage, nous avons décidé de ne pas construire ce skatepark. Nous avons discuté des différents réaménagements et nous avons notamment décidé aussi de maintenir les terrains de beach volley là où ils sont actuellement, puisque ces terrains aussi sont très prisés. Et parfois, il y a des utilisateurs qui mettent de la musique et ça peut déranger le voisinage. Dans les premiers projets, on avait prévu de les rapprocher des villas existantes, mais on va les maintenir là où ils sont. Et vraiment, on a tenu compte des doléances des voisins. Et on espère que grâce à cette séance et cette démarche participative, les voisins ne s'opposeront pas à ce sujet. Mais voilà, je me réjouis d'attendre le 9 mai pour le verdict final.
Et les nouvelles installations de la zone sportive des Verchies à Olon pourraient donc voir le jour dès l'été 2022. Et Viège a battu cette nuit son record de la température la plus basse pour un mois d'avril. La commune valaisanne a enregistré moins 6,1 degrés. Il n'y a jamais fait aussi froid depuis le début des mesures en 1959. Le mercure a chuté encore plus bas dans d'autres régions. Dans le hameau du Jura bernois, La Chaudabelle, il a fait moins 15 degrés, c'est ce qu'a annoncé SRF Météo. Dans la commune de la Brévine, la Sibérie de la Suisse, dans le canton de Neuchâtel, moins 12,6 degrés ont été mesurés la nuit dernière. La Suisse ne veut pas s'exposer dans le conflit autour du rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur l'origine de la pandémie de coronavirus. Selon la Neue Zürcher Zeitung, elle ne se ralliera pas aux États-Unis et à 13 autres pays pour mettre en doute les conclusions de l'étude et demander une enquête supplémentaire.
La Confédération ne doit pas financer à coups de milliards des pratiques qui polluent l'environnement.
Des parlementaires du Parti Vert Libéral et du PLR ont joint leur voix aujourd'hui aux supporters de l'initiative pour une eau potable propre. Ils estiment qu'il est temps de pousser les milieux agricoles à revoir leurs copies et à adopter des modes de production plus écologiques. Privés de paiements directs, ceux qui utilisent trop de pesticides et d'antibiotiques seraient donc une solution, selon ce comité libéral. Pour Tiana Angelina Moser, conseillère nationale zurichoise, chef du groupe Vert Libéral sous la coupole, cette menace est la preuve que la confiance est rompue entre les paysans et une partie du Parlement.
Oui, on a vraiment un problème parce qu'on a essayé beaucoup dans les dernières années. Moi, depuis que je suis dans le Parlement, j'ai essayé de lutter pour une amélioration de la situation avec les pesticides et la production intensive. Et on n'a vraiment pas de soutenu dans notre Parlement. Je crois que c'est maintenant le moment que la population doit faire comme une redirection. On doit changer les incentives parce que sinon, le Parlement et le Conseil fédéral ne sont pas capables.
Même son de cloche pour le PLR bernois Christian Wasserfallen. Pour lui, cette initiative est d'ailleurs tout à fait compatible avec ses valeurs libérales.
La question de cette initiative qui se pose, c'est comment on veut donner de l'argent à l'agriculteur et pourquoi. Et on veut une durabilité pour sauver l'eau potable. Et par exemple, dans des autres domaines, dans l'industrie, quand vous voulez un projet de l'État, vous faites un appel d'offres, par exemple. Vous avez besoin de négocier aussi au niveau de la durabilité, présenter des solutions pour la durabilité. Et après que ces points sont positifs, vous avez la chance de recevoir un projet de la Confédération.
Des propos recueillis par notre correspondante à Berne, Hélène Yost. Les adversaires estiment pour leur part que cette initiative rate sa cible, car les agriculteurs privés de paiement direct seraient incités à produire de façon encore plus intensive. Le texte empêcherait aussi la culture locale de certains fruits et légumes. Rappelons que le peuple se prononcera le 13 juin. Les Suisses devront également se prononcer sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Selon le vice-président de l'Union démocratique fédérale, Thomas Lamprecht, les opposants ont réuni suffisamment de signatures pour faire aboutir un référendum contre la révision de la loi. Le Parlement a adopté en décembre dernier le projet de loi sur le mariage pour tous. À l'étranger, le président américain Joe Biden annoncera aujourd'hui des mesures visant à limiter les armes à feu, ont indiqué les responsables de la Maison-Blanche. Il s'agit notamment d'empêcher la prolifération d'armes intraçables, dites fantômes. Le président veut aussi davantage soutenir les agences impliquées dans la lutte contre les violences et demander le premier rapport global sur le trafic d'armes à feu aux États-Unis depuis 2000. Il ne devrait en revanche annoncer aucune grande mesure visant à durcir la législation sur les armes, comme davantage de vérification des antécédents ou la fin de la vente des fusils, souvent utilisés dans les tueries dites de masse. De nouvelles émeutes ont éclaté hier soir à Belfast, dans la capitale d'Irlande du Nord, où un bus a été incendié. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré être profondément inquiet face à ces scènes de violence. L'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, connaît une nouvelle poussée de violence depuis quelques jours. Les tensions se sont accrues les jours passés à la suite d'une décision controversée de ne pas poursuivre en justice 24 membres du parti républicain Sinn Féin pour leur participation aux funérailles d'une ancienne figure de proue de l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, en juin 2020, et ceci malgré des restrictions en place contre le coronavirus. Le sport maintenant, football, Montais a été battu hier soir en Coupe de Suisse. Les Valaisans faisaient office de petits poussets au stade des huitièmes de finale de la compétition. Opposés au FC Lugano, troisième de Super League, les Rouges et Noirs se sont inclinés 3-0. Ils ont pourtant tenu jusqu'à la demi-heure avant que les visiteurs inscrivent deux buts en moins de 5 minutes. Juste avant la pause, ils ont fait mal à la formation chablaisienne, comme le souligne Jérémy Fogel, défenseur du FC Montais.
On savait que ça risquait d'arriver, puis je pense qu'on a tous gardé la tête haute, on a continué à essayer de produire du jeu, donc on est fiers de nous, quoi. Bon, là, on se dit qu'on va limiter la casse, on se dit qu'on a, vu les occasions qu'on a eues avant, bah, on va continuer d'essayer d'en gratter une, de marquer, ça fera plaisir à quelqu'un s'il peut marquer son but contre une Super League, donc on garde de nouveau la tête haute à ce moment-là, puis on se dit que voilà, on va aller marquer ce but, et puis on reste dans le match, on baisse pas les bras, ça c'est sûr.
Ne pas baisser les bras, c'était donc la mission de la seconde période. Les Montaisans y sont parvenus en se créant plusieurs occasions dangereuses. De trop grands espaces se sont alors libérés au franc, ainsi le troisième but au Tessinois. Une prise de risque qui n'a pas payé pour l'entraîneur du FC Montais, Cédric Stram.
Oui, exactement. On a fait une grosse première mi-temps et puis on s'est peut-être un petit coup de mou physique sur la fin du match, une perte de concentration parce que c'est des goals qui sont évitables. On leur donne le ballon pour nous punir, on va dire. Et puis en deuxième mi-temps, la pause a fait du bien, on a bien discuté et on a trouvé des solutions pour aller dans leur dos parce qu'on trouvait la défense pas très mobile, pas très rapide par moment et on aurait pu avoir la possibilité de marquer un goal qui aurait été important.
Pour le FC Lugano, les quarts de finale de la Coupe de Suisse sont déjà prévus la semaine prochaine. Les Tessinois accueilleront Lucerne pour tenter d'accéder au dernier carré. Un sujet de Ludovic Turin.
De son côté, le FC Vevey United est quant à lui passé tout près d'un bel exploit.
Les joueurs de la Riviera ont donné du fil à retordre à une autre équipe de Super League, le grand Servette FC, en huitième de finale de cette Coupe de Suisse. Alors qu'ils menaient 1-0 à la mi-temps, les Vaudois ont cédé après avoir encaissé deux pénaltys dans les cinq dernières minutes. Ils se sont ainsi inclinés 4-2 devant les Genevois. Au terme de la rencontre, la déception était donc grande dans les rangs veuvaisans. Mais alors que l'équipe est au repos forcé depuis bientôt 6 mois et qu'elle n'a eu que 3 semaines et demie pour préparer ce rendez-vous, la fierté a rapidement pris le pas sur les regrets. La réaction du défenseur du FC United, Bardil Aydini, auteur du premier but de la rencontre.
Ça se voit au niveau, hein. C'est des joueurs de Super League forcément avec... Tous les entraînements qu'ils ont, ils sont dans la course depuis un moment. Nous, forcément, on a été arrêtés. Il nous a manqué un petit quelque chose, un petit brin pour vraiment que les planètes s'alignent et que ce soit magnifique. Mais on va garder cette fierté d'avoir joué ce huitième de finale dans notre stade, avec notre staff, notre équipe, avec tous nos supporters qui sont venus faire un peu du bruit autour du stade. Franchement, c'était la classe.
Ce match va donc rester dans les mémoires à Vevey, mais quel rôle va-t-il jouer dans l'avenir? Toujours très incertain en raison de la crise sanitaire de la formation de la Riviera. La réponse de l'entraîneur veveysan Christophe Cachilli.
L'avenir, on ne peut pas l'écrire, on ne peut pas le deviner non plus, donc on va attendre un petit peu l'évolution du virus. Mais moi je vais me concentrer surtout sur mon groupe, ça fait... presque 2 ans, 1 an et demi, on va dire, entrecoupé de pas mal d'interruptions, malheureusement, qu'on essaye de construire quelque chose avec le staff, avec les dirigeants du club, pour se donner les moyens d'évoluer. Aujourd'hui, on a montré qu'on ne s'était pas trompé par rapport au groupe, par rapport aux joueurs de football qui sont, mais aussi par rapport aux hommes qui sont. Et quand on vous dit qu'on a vécu des moments intimes inoubliables, c'est une réalité et ça, ça forge un groupe. La coupe, elle est là pour ça. Alors, Vevey, voilà, a toujours été ambitieux. Là, on sait où on va, on sait comment on veut y aller. Il faut juste travailler et laisser les gens travailler. Voilà.
Des propos recueillis par Julien Traxel. À noter qu'en quart de finale de la Coupe de Suisse, Servette se mesurera la semaine prochaine à Kriens, pensionnaire de Challenge League.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch.
La météo avec la maison Brandalise. Robot tondeuse, machine pour jardins et forêts, zone industrielle Retay à Colombey-le-Grand.
Du soleil pour cet après-midi avec des températures qui vont grimper jusqu'à 10 degrés en plaine, 7 à 1000 mètres pour demain. Toujours un temps bien ensoleillé malgré des passages nuageux en augmentation en soirée. Il va faire 15 degrés, ça fait plaisir. Le mercure grimpe encore, 15 degrés pour la plaine, 12 à 1000 mètres. La météo complète et à 6 jours, radiochablais.ch et notre application mobile Radio Chablais.